lorsqu'on dit centre de la France, on pense tout de suite au cœur de la France. Et tout ce qui touche le cœur, c'est un sentiment noble. Alors nous sommes fiers d'être le centre de la France.
Et pour compléter cette documentation, je vais vous donner une citation du Quid de 1969 au sujet du centre de la France. France métropolitaine, le centre de gravité de la superficie est à mi-distance entre les hameaux Frappant et la prêle de la commune de Védin-Cher. Bruère Alichamp, Cher, s'est enorgueilli à tort d'être le centre de la France.
Il est où votre centre à vous? On est devant une carte. Dessinez rapidement.
Centre à moi, il est... je devrais faire entre là, là, là et là, et il est là.
Il faut donner quelques noms de villes.
Là, ça tombe à peu près au niveau de la Méditerranée. J'essaie d'être en fait à équidistance de l'Algérie, de Paris, de la côte portugaise, et je me trouve un peu en bas de l'Italie vers les Cinque Terre. Donc ça doit être à peu près autour de Barcelone, je pense, si je veux être à équidistance de tous les endroits où je veux me rendre.
Badrou, il est où ton centre, où ton cœur?
Mon centre, entre ici la Courneuve, là-bas Djungwe, aux Comores, Nairobi, là où je suis né. Je crois qu'on est à peu près en Égypte, hein. On est en Égypte, voilà, on est chez les pharaons.
Mehdi?
Bah, je dirais que mon centre, il est dans la mer, moi. Il est ici, pile au milieu de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie.
Fadza?
Alors, Béjaïa, où je suis né, Aubervilliers, où j'ai grandi, le Portugal, où je suis jamais allé, et l'Italie, que je connais pas. Et au milieu, c'est la mer. Mais je vais remonter comme je sais pas nager. Je vais me mettre là, sur un petit bateau qui bouge. Là, pour l'instant, je vais vers l'Espagne. Puis je reviendrai, je retournerai vers l'Italie. Et puis après, ben, je verrai où le vent me porte.
Vous pouvez prendre Mehdi sur le bateau?
Ah oui, oui.
Je passerai de prendre à Barcelone aussi.
Je passerai de prendre à Barcelone. Et puis, ben, Badrou.
Badrou, il est en Égypte, par contre.
Badrou, ben, il est en Égypte. Ben, on lui enverra un taxi.
Prends Uber et puis on te rejoint à Porte d'Orléans.
Moi aussi, j'aurais dû naître à la France.
Ah bon?
C'est mon père qui devait partir à la France. Il est tombé malade.
Oh, il a eu peur, je sais pas.
Hassol, c'est ton père qui est parti à sa place.
Alors, toi, t'es né là-bas.
Et moi, je suis né ici.
Il est 23h et on est tous nés quelque part. Ce quelque part qui nous colle à la peau comme un choix qu'on n'a pas fait, comme un hasard. On passe sa vie à donner du sens à ce départ. Alors à quoi nous attache une naissance? Est-ce que c'est notre centre? Est-ce que le cœur est là? Il y a des vies qui auraient pu être les nôtres. Badrou a grandi à la Courneuve, près de Paris. Son double, c'est Omar, qui lui est né aux Comores. Badrou filme le grand mariage de ses parents et comprend qu'il fait partie des « je viens », ceux qui rendent visite et qui repartent. Omar, c'est un « je reste » et son rêve, c'est de devenir un « je pars ». L'idéal serait de pouvoir être les trois à la fois « je viens »,« je reste »,« je pars »,« je reviens » dans le désordre et à l'envie. Le double de Mohamed Hamidi, c'est son cousin, né en Algérie, qui a le même nom que lui. Il est un des personnages de son premier film, Né quelque part. Badrou et Mohamed font des films en forme d'aller-retour, de dialogue avec le temps entre passé et présent. Mohamed Hamidi a inventé le personnage de Fatah, ce paysan algérien qui va traverser la France à pied avec sa vache. C'est un road movie à travers la France. Il avance comme un Candide moderne, avec la naïveté qu'on a oubliée, celle qui permet de s'étonner des autres et d'aimer ne pas encore tout savoir. Si on réessayait la naïveté, le saut dans le vide, le je ne sais pas, si on devenait curieux. Fatah, c'est aussi la figure de son père. Il y a des naissances qui nous ont précédés. Est-ce que celle de nos parents, ça nous regarde? À partir de quel moment il y a prescription? Il y a le visage de Badrou qui demande à ses parents « Mais moi, il faudra que je le fasse, le grand mariage, aux Comores ?» On lui répond « Oui ». Et il y a son visage qui n'a pas encore choisi, qui s'autorise à rester à l'endroit compliqué, qui ne résout pas d'un oui ou d'un non une question de vie. Ce n'est pas « Non, je me fiche de la tradition », ce n'est pas « Oui, je ferai ce qu'on me dit », c'est ailleurs, c'est autre chose, c'est ouvert. Quand on est entre deux, on ne lâche pas ce pouvoir-là, on ne se déchoit pas de ces endroits, de ce « je viens, je pars, je reste, je reviens ». Mohamed Hamidi avoue « il me faudrait deux vies pour tout faire ». Il a finalement, à l'intérieur d'une seule, multiplié les endroits, les métiers, collé sa naissance à un futur pas tracé. Heureusement, on peut se décentrer, choisir où on place le cœur sur la carte, avec intelligence et en retrouvant la belle naïveté. Mohamed Hamidi, né à Bondy, quartier Blanqui en 1972, agrégé d'économie, a passé le BAFA, connaît tous les centres aérés écolos de la région. Il y a 10 ans, il crée le Bondy Blog. Il a eu à choisir entre prof et artiste. Il est devenu père, il écrit des fables, un premier film, Né quelque part, et un deuxième, La Vache, qui sort au cinéma le 17 février. Le formidable Fadza joue Fatah dans le film, il est en studio avec nous, et avec deux jeunes amis. Ami Mehdi Meklat et Badrouddine Saïd Abdallah, qui lui vient de réaliser Le Grand Mariage, diffusé sur France O le dimanche 14 février à 14h50. Il y aura en studio une carte élargie, sans centre préétabli, Bondy, Aubervilliers, La Courneuve, l'Algérie, l'Égypte, les Comores, les villages de France, et à la guitare, la voix et le cœur de Merlot. Et ça commence par Mastroianni.
Faire du cinéma ou faire du théâtre, ça veut dire, comme des enfants, continuer à dire de conneries et à jouer. En plus, ils te payent. En plus, tout le monde fait comme ça. Je dois me reposer de quoi? Quand je me repose, c'est le moment que je commence à fatiguer. Parce que quand vous arrivez le matin, même un petit peu comme ça, souvent, généralement, étourdi, avec les yeux gonflés, etc., vous arrivez, la voiture vient vous prendre, il vous amène au studio. Vous, déjà, vous dites, 8h du matin, 7h30, quelle vie de merde. Belle Mercedes qui vient, bonjour docteur. Bonjour, vous avez bien dormi. Vous arrivez au studio, bonjour, 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 vous avez pris le café, ils sont en train de préparer, ne vous inquiétez pas, vous passez au maquillage, oui. Au maquillage, moi je dors. Parce que toutes les lumières fortes qu'ils ont sur le miroir, le matin, quand on a peine sorti du lit, à moi, je dois garder les yeux fermés. Puis là, le type qui commence à te mettre du make-up, c'est un petit massage. 5 minutes et je dors. Vous travaillez demi-heure, tout de suite après, reposez-vous. Alors, la belle fauteuil avec le nom, etc. Le soir, il vous reprend. Mercedes, vous êtes fatigué, docteur. Ah oui, je suis fatigué, chauffeur. Vous ramenez à la maison et puis vous veillez vos amis. Alors j'ai dit, quelquefois, on fait l'amour même avec la femme du producteur.
Thank you.
Mohamed Hamidi, est-ce que le tournage de La Vache, ça ressemblait à ce que décrit Mastroianni?
Moi, j'aime beaucoup entendre la voix de Mastroianni, surtout quand il parle de cinéma, parce que, effectivement, c'est comme ça que j'aborde le métier du cinéma. Avec une grande chance, c'est un privilège de faire ce métier. Moi, j'ai fait d'autres métiers avant. Et effectivement, souvent, moi, quand j'entends des acteurs se plaindre, alors il y a des raisons de se plaindre dans la vie, hein, mais notamment des conditions, le fait d'entrer dans un personnage et de ne pas pouvoir se coucher la nuit, même s'il y a une partie d'inspiration, etc. Moi, j'aborde le cinéma comme quelque chose de, enfin, comme un privilège. Et effectivement, je trouve que on n'a pas beaucoup de raisons de se plaindre quand on fait ce métier, quand on a la chance de raconter des histoires, quand on a la chance de pouvoir faire jouer des amis, de pouvoir faire de la musique, comme c'est le cas aussi dans le cinéma, de pouvoir faire des décors, de pouvoir écrire des textes. Sur le plateau de La Vache, effectivement, j'essaie de garder une ambiance comme ça qui rappelle à tout le monde qu'on est en train de faire quelque chose de marrant, de rigolo, de festif. On est des artistes, quoi. Donc pour moi, des artistes doivent rester... rester joyeux, conscient et heureux de faire ce travail.
Et qu'est-ce qui vous reste de cette époque du tableau blanc? On a commencé l'émission en traçant une carte.
Moi, j'ai même commencé, c'était le tableau vert à l'époque, le tableau noir. Mais il me reste plein de choses de mon époque de prof. D'ailleurs, moi, je suis à peu près persuadé que je redeviendrai prof parce que c'est un métier qui me plaît trop. J'aime trop le contact avec les jeunes, j'aime trop le apprendre. Et moi-même, parce que quand on est prof, on apprend beaucoup.
Et c'était l'économie au lycée de Bobigny.
J'ai fait de l'économie, j'ai enseigné l'économie essentiellement. J'ai enseigné d'autres matières aussi, mais c'est vrai que moi j'aurais pu être prof de philosophie ou d'histoire ou de français. Il se trouve que je suis allé vers l'économie parce que c'est ce qui m'intéressait le plus quand j'avais 18 ans. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'enseigner à l'époque. J'avais vraiment une double vie entre l'enseignement, la pédagogie et la partie artistique que j'ai jamais lâchée. C'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de musique, j'en fais toujours. J'ai toujours écrit des trucs. Une envie créative en tout cas.
Le groupe s'appelait Net de Net.
Exactement, Net de Net. D'ailleurs, je serai en concert avec Net de Net au Réservoir très bientôt, le 19 février, pour fêter la sortie de La Vache.
Et j'ai lu que déjà à 16 ans, vous faisiez du soutien scolaire pour d'autres jeunes. Déjà à cet âge-là, vous intéressiez à la transmission et puis à l'éducation?
Mais en fait, j'avais pas encore fini de m'éduquer moi-même que j'éduquais déjà les autres. Et c'est vrai que j'ai eu des responsabilités assez jeunes. J'ai monté mon premier cours de soutien scolaire à 16 ans avec des copains de lycée. J'étais en seconde, en première, je crois, à Bondy d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre un peu de responsabilité, soutien scolaire, et puis après des mercredis après-midi, et puis après des colos pendant les vacances. Et je n'ai jamais cessé d'aider, dès que j'apprenais quelque chose, d'essayer de le retransmettre à l'échelon du bas. Comme moi, en fait, des choses m'ont été retransmises par des gens de mon quartier, par mes sœurs, mes frères.
Ça veut dire quoi, être un pur produit Bondy, puisque vous le dites souvent?
Être un pur produit de Bondy, ça veut dire naître dans une grande famille, 9 enfants pour ce qui me concerne, dans une cité HLM, dans la cité Blanqui.
Vous êtes le dernier?
Je suis le dernier, exactement. Ça veut dire avoir un sens du partage, un sens de la solidarité, avoir un sens de l'autre. Parce que quand on est neuf, déjà, il faut s'écouter, il faut pouvoir accepter de partager sa chambre avec deux sœurs et un frère. Et puis ça veut dire aussi avoir une certaine indépendance assez jeune. Parce qu'effectivement, très jeune, de par la taille de notre famille, dès l'âge de 10-11 ans, on est obligé de se responsabiliser parce que voilà, on n'a pas forcément la même attention que quand on est un enfant unique. Donc il faut trouver vite de quoi s'occuper, se divertir, se former. Et ça, moi, je l'ai effectivement fait grâce à mes frères et sœurs. Moi, franchement, si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est grâce à mes parents, bien sûr, mais aussi grâce à mes frères et sœurs qui ont joué le relais à un certain moment. Être un pur enfant de Bondy, ça veut dire aussi, pour ce qui me concerne en tout cas, quand on a la chance d'avoir passé quelques portes, de ne pas fermer la porte derrière soi. Moi, c'est comme ça que je conçois la vie.
Je crois qu'avec Fadza, vous êtes de la même génération à peu près. Vous avez en commun de connaître Michel Jonas par cœur.
C'est vrai.
Et qu'est-ce que vous avez en commun avec Mehdi et Badrou, qui sont d'une autre génération?
Avec Mehdi et Badrou, on a en commun je pense que même si on n'est pas de la même génération, je pense qu'on porte les mêmes valeurs. La même envie, la même curiosité artistique déjà. Moi, ils me rappellent beaucoup, moi, quand j'avais... parce que je les ai connus, ils avaient 16 ans. Moi, j'étais très curieux aussi, comme eux, à 16 ans. J'allais partout où on me demandait d'aller. J'écoutais tout le monde. J'ouvrais tous les livres qui se présentaient devant moi. Je prenais le métro, j'allais à Paris. Et je me baladais comme ça. J'étais vraiment... J'avais tous les sens ouverts et je prenais tout ce que j'avais à prendre. Et eux ont été comme ça très jeunes. Et je pense que aussi, ce qu'on a en commun, c'est qu'eux aussi ont envie de faire le bien autour d'eux. Et on n'est pas des prêtres ou des imams. On n'est pas là pour porter des valeurs comme celle-ci, mais on a juste envie en fait que les gens aiment mieux, quoi. On a juste envie de soigner un peu les gens. En tout cas ceux qui en ont besoin.
Est-ce que ça vous va comme définition de métier, essayer de soigner les gens ou faire que les gens aient mieux, Mehdi ou Badrou?
Ouais, je pense que ça nous va. Et je pourrais même rajouter qu'avec Mohamed, on garde en commun cette rage, cette révolte qui vient du quotidien que l'on a connu. C'est pas un quotidien dans lequel on va se mettre à pleurer là-dessus. C'est un quotidien qui nous a rendu forts, en fait, qui nous a permis de se dire qu'il n'y a pas de barrière en fin de compte. Et aujourd'hui, on peut être à même aussi de participer au monde. En fin de compte, on a commencé l'émission sur l'idée du centre du monde, et on se rend compte en fait que cette carte, on peut la manier, on peut la manipuler. Elle est à nous.
Et je pense aussi que Mohamed a dit quelque chose de très important. Il a dit que quand on est arrivé dans un endroit, si on ne connaît pas grand monde, on a envie d'être aussi avec des gens qu'on connaît. On a envie d'ouvrir cette porte et de leur dire que c'est possible d'y entrer. Alors qu'on a tendance à nous fermer les portes, finalement. Et on a tendance à entendre que c'est pas possible d'entrer.
Mon cher Noël, j'ai eu beaucoup de partenaires dans mes films. Chut, Marguerite. Car vous savez que j'ai tourné un nombre incalculable de films. J'ai eu des charmants partenaires. Et c'est la première fois que j'en ai une aussi encombrante. Qu'est-ce que c'est ça?
Bravo, bravo!
Marguerite! Marguerite! Viens ici tout de suite, tu m'attends? Marguerite, laisse ce jeune homme, tu le connais même pas. Imprudente, va.
Ces femmes, toutes les mêmes.
Est-ce qu'on peut parler de Jacqueline Fadza? Vous savez que c'est la fête des Jacquelines aujourd'hui?
Oui, je sais que c'est la Sainte-Jacqueline. Et bonne fête à toutes les Jacquelines.
Et pourquoi Jacqueline s'appelle Jacqueline, la vache?
Parce que ça sonne bien avec l'accent. Viens ici, Jacqueline. Et puis, il y a aussi une autre raison. C'est parce qu'avant qu'on ait les téléphones portables, donc je vivais chez mes parents et les filles qui téléphonaient chez moi, bah, mon père se souvenait pas qui c'était, si c'était Aurélie, Stéphanie ou Laurence. Donc, pour lui, c'était une Jacqueline. Donc, il disait, il y a encore une Jacqueline qui l'a téléphoné.
Non, et Jacqueline aussi, parce que c'est un prénom, comme Marguerite était un prénom à l'époque. Pour moi, Jacqueline, c'est nos profs, nos institutrices, nos assistantes sociales, la gardienne de mon immeuble. C'était ces femmes-là qui s'appelaient Jacqueline. Une certaine génération de femmes qui avaient 30 ans de plus que nous et qui nous entourait, quoi. Donc c'est le respect.
On entendait Fernandel avec sa Marguerite. Comment vous avez trouvé la Jacqueline de Fata dans le film?
J'ai fait un casting.
Un casting,
de vache. D'abord, il a fallu choisir la race. Moi, j'avais envie d'une vache marron, donc ça s'est un peu resserré. Je voulais pas de vache à tache pour plein de raisons, mais y compris des raisons cinématographiques. Donc à partir du moment où on a choisi la race, en allant au salon ensemble avec Fadza, je le mettais à côté de toutes les vaches et je regardais la taille, si ça correspondait. Et vraiment, d'ailleurs, on s'est arrêté sur deux vaches, je les ai pris en photo et en regardant après, je trouvais que le duo marchait le mieux avec une tarentaise. Donc une fois qu'on a choisi cette race tarentaise, on est allé faire un casting de vaches au-dessus d'Aix-les-Bains, voilà, en plein hiver, dans la neige. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Jacqueline.
Et après, vous l'avez apprivoisée? Fadza?
Oui, j'ai passé du temps avec elle. On s'est amadoué. Et sur le tournage, je la partageais avec Manu Sanra, qui est le dresseur ciné, celui qui s'occupe des animaux. Et c'est quelqu'un qui s'occupe aussi bien d'un aigle que d'un loup ou d'une vache.
Pourquoi vous avez eu envie de ce road movie à travers la France? Parce que donc Fatah, ce paysan algérien, apprend que son rêve est en train de se réaliser parce qu'il est invité au Salon de l'agriculture à Paris, après s'être présenté tous les ans, donc c'est un peu inespéré. Il part avec sa vache, il traverse toute la France. Comment vous, vous le connaissez, ce pays plutôt rural, ces régions
Moi, je l'ai beaucoup connu. On parlait de mon engagement, on va dire, associatif tout à l'heure. Effectivement, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de l'animation. Et pendant une dizaine d'années, même un peu plus, j'étais animateur de colo. Et donc, j'emmenais des jeunes un peu partout. J'emmenais des jeunes un peu partout, en France, dans la France profonde, au ski, sur les plages, en Dordogne beaucoup par exemple. Je suis allé beaucoup dans les Deux-Sèvres, en Dordogne, en Indre-et-Loire. Enfin voilà, je fais beaucoup de colo. Et donc c'est toujours intéressant d'arriver comme ça avec une bande de 15, 20 jeunes. C'était souvent des camps d'ados, dans un endroit complètement extérieur à leur quotidien. Et de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, des paysans, des agriculteurs, et même des Français qui eux-mêmes n'ont pas l'habitude de rencontrer des jeunes de quartier. Souvent ça se passait très bien, la plupart du temps. J'ai eu quelques problèmes, bien sûr, comme tout le monde, mais je garde ce souvenir, moi, du choc des cultures, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, et c'est un pays que j'ai continué à parcourir après, un peu avec la musique, un peu après, comme ça, pendant mes vacances, aujourd'hui avec mes enfants. Et c'est un pays que, c'est finalement le pays que je connais le mieux, hein, la France.
Mehdi, vous aviez eu envie, vous aussi, de faire un tour des villages en France?
On l'avait fait, un tour des villages de France, mais c'était de moins de 100 habitants. C'était pour France Inter. Et l'idée, c'était d'aller rencontrer des gens qu'on n'entendait pas forcément. Des gens qui avaient parfois d'énormes difficultés. Parce que, voilà, ils vivent dans des endroits extrêmement reculés. Parfois, Internet n'est toujours pas arrivé chez eux. Parfois, voilà, ils ont des problèmes pour vivre, quoi. Ils ont pas beaucoup d'argent, etc. Et on voulait aller comme ça du nord au sud et d'est en ouest pour entendre ces villages-là. Et on l'avait fait pendant 2 mois, je crois, à France Inter. Et c'était une occasion d'entendre ces gens. Ouais.
Mohamed Hamidi, on en parlait au début de l'émission. Je crois que le premier film n'est quelque part. C'était plutôt inspiré de vous, de votre histoire, de votre retour en Algérie. Là, cette fois-ci, c'est plutôt la figure de votre père, Fatah.
Ouais, c'est l'utopie, c'est le rêve, parce que quelque part, nos parents, ils sont partis comme ça vers l'inconnu, comme aujourd'hui, Fatah part avec sa vache vers l'inconnu. Moi, je me dis toujours, voilà, est-ce que j'aurais eu ce courage de partir comme ça? Mon père, il est parti, je crois qu'il avait 22 ans. De quitter mes parents, mes frères, mes sœurs, de prendre un bateau et d'aller vers l'inconnu. Parce qu'il faut savoir que voilà, mon père il est venu en France dans les années 50, et là il n'y avait pas d'internet, comme tu me dis. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, on partait et on allait vers un pays qu'on ne connaissait pas du tout. En plus, c'était en pleine guerre. Donc, effectivement, le premier film, quelque part, c'était très axé sur cette question identitaire, comme ça. Et sur moi, le retour en Algérie, c'est-à-dire quand, vers l'âge de 30 ans, je suis revenu en Algérie alors que j'y avais pas mis les pieds depuis très longtemps, et j'ai eu un vrai choc sur le hasard le hasard du lieu de naissance, justement, et sur le fait que j'aurais tout à fait pu naître un Edroma dans la région de Tlemcen en Algérie et avoir une vie complètement différente. Et ça, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire et de raconter ce trouble. Alors que dans La Vache, j'ai plus eu envie, effectivement, de rendre hommage, en quelque sorte, au personnage de mon père. C'est-à-dire à sa simplicité, à son honnêteté, à sa bienveillance. Mais c'est aussi comme ça qu'est le père de Fatah, j'ai l'impression. Je le connais pas, mais voilà. C'est-à-dire ces gens simples qui sont venus avec des idées simples, des valeurs très simples, et qui les ont véhiculés autour d'eux pendant plus de 40 ans, quoi. Et ce personnage de Fatah qui se balade en France, comme il est premier degré, les gens intelligents, en tout cas, qui ont envie de communiquer avec lui, sont aussi premier degré. Donc ils se mettent à son niveau. Et ça fait du bien parfois de décomplexifier les choses pour se parler de choses simples, c'est-à-dire l'amitié, la famille, la terre, le rapport, je sais pas, les rapports amoureux, le rapport à la propriété, le rapport à l'étranger. Donc parfois, décomplexifier, ça fait du bien pour être sur des connexions pures et simples.
Je parlais de Candide tout à l'heure et aussi d'une certaine naïveté qui justement permet la rencontre, en fait, tout simplement, dans le parcours de Fata. Et qui nous échappe peut-être un peu aujourd'hui, cette naïveté dans le sens noble du terme.
Exactement, mais c'est marrant que vous utilisiez le mot noble parce que, par exemple, Philippe, qui est joué par Lambert Wilson, c'est un conte. Et soit c'est Fata et Philippe se rencontrent sur chacun leur ce qu'ils ont construit chacun autour de leur personnage. Donc Fata autour de son milieu paysan, de l'Algérie, de sa culture, de sa religion, etc. Et Philippe, lui, se part de tout ce qui entoure un noble, c'est-à-dire les règles, la famille, le pays, les traditions. Et là, ils ont rien à se dire. Ils ont plutôt que des choses à s'opposer. Ou soit ils enlèvent tout ça, et c'est juste deux gars qui se rencontrent avec des valeurs humaines premier degré, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et là, on a tous des choses à se raconter quand on enlève tout ça. On a tous des choses à se dire.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon, dans l'idée, dans l'esprit de ces hommes, de cette génération-là qui viennent d'Algérie, une idée particulière de la France, de quelque chose aussi d'élégant, de bonne manière, on sent qu'ils chantent Aznavour, ils ont une période, une époque peut-être de la France dans la tête.
Ouais, mais Fadza dit souvent, il a raison, que les Algériens sont les plus grands conservateurs de la culture française, les Africains d'une manière générale. Du phrasé, du parler, de la musique, d'un certain art de vivre.
Des manières.
Il y avait beaucoup plus d'objets qui me rappelaient la France chez moi que chez mes copains français. Moi, je sais pas, il y avait des anciens objets, des blaireaux, des choses comme ça qui n'existaient plus chez les Français. Une manière de parler, des ceintures, des bretelles, des choses comme ça, quoi.
Ouais. Et puis des mouchoirs en tissu.
Des voitures, des Peugeot par exemple. Heureusement qu'il y a les Arabes pour acheter des Peugeot. Parce que sinon, notre entreprise sera en faillite. On sera tous dans les voitures japonaises.
Oui, il y a très longtemps, je devais avoir 8 ans. Je suis allé en Algérie avec mon père. Et quand on est rentré en France, il m'a dit, tu veux acheter un souvenir? Je lui ai dit oui. Et il m'a acheté une tour Eiffel.
En Algérie.
En Algérie.
Ça va, Fata?
Ça va pas du tout, monsieur Philippe. C'est la débandade. Naïma, il veut me divorcer. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais me suicider comme des méchils, c'est ça?
Ah ben non.
Tu te rends compte si Naïma me quitte? Qu'est-ce que je vais faire tout seul à la maison? Je sais même pas où est la cuisine.
Ça, c'est embêtant. Bah, si elle veut pas vous parler, vous pouvez pas lui écrire, hein? Vous savez écrire?
Oui, un petit peu. En détaché. Je suis grand Fatah, bouteflicain, et félin.
Je suis pas sûr que ça nous serve. Bon. Ma chérie.
Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte, quand même.
Mon amour? Mon cœur?
N'importe quoi, hein.
Je sais pas, vous l'appelez comment dans l'intimité? Vous avez bien un petit nom, entre vous, non?
Je l'appelle Lumra.
Mra?
Lumra, ça veut dire femme.
Vous n'allez pas commencer la lettre avec Mra? Femme? Non, c'est trop froid. C'est quoi son prénom?
Elle s'appelle Naïma.
Et ben voilà, ça c'est joli. Naïma. Naïma.
Je soutiens Fatah Belabès déclare qui de Rouen.
Mais vous n'êtes pas en train d'écrire une lettre aux impôts, la Fatah, un peu de poésie.
C'est la première fois que j'écris une lettre de l'amour à ma femme. Oui. C'est pas facile, Philippe.
Je sais, c'est difficile, mais je sais de quoi je parle. Bon, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Naïma, je suis désolé, mais je t'aime.
Ah non,
mais si! Il va falloir lui dire je t'aime.
Mais chez nous, on dit pas je t'aime comme ça.
Mais chez nous non plus, on dit pas je t'aime comme ça. Pourtant, il va falloir le lui dire, croyez-moi. Mais
dis-le toi.
Fata dit, je suis trop sensible pour un arabe. Il a ça aussi, c'est que il admet que oui, il peut avoir des moments où il est plus faible. Il admet qu'il n'est pas tout le temps fort. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose de particulier pour ce personnage?
C'est vrai qu'il dit ça. Il dit ça quand il pleure devant la vache et le prisonnier. Non, c'est avant tout une vanne. Je suis trop sensible pour un arabe, mais c'est très rigolo parce que c'est vrai que. On a tendance à dire voilà qu'on est dur, les hommes en tout cas durs, qui pleurent pas, qui sont qui sont comme ça, les chefs de famille. Et lui, il pleure comme une madeleine quand on lui montre la vache et le prisonnier. Donc, alors la première réaction qu'il a, c'est de dire ça, quoi.
Là, il est en train d'écrire une lettre d'amour avec le comte dont vous parliez tout à l'heure, qu'il rencontre. Et puis finalement, voilà, les barrières tombe et il l'aide un peu parce que sa femme Naïma, on va pas tout dévoiler, mais a peur qu'il lui échappe quand il est en France.
Exactement, il a fait le con, ouais. Il a fait le con, voilà. Juste avant.
Et c'est assez drôle parce qu'il n'ose pas, il dira plus tard aussi je te parlerai d'amour bientôt comme les Français. Mais il y a aussi cette pudeur de parler avec des mots d'amour. Est-ce que ça c'est aussi...
C'est typique de notre culture, hein, en tout cas de la culture de nos parents. Et c'est marrant parce que il y a une séquence du film où on m'a souvent posé la question, là, quand on tourne, on me dit pourquoi il n'embrasse pas sa femme? Et parce que, comme on explique aux gens, ça se passe au milieu du village, il y a tout le village autour, on n'embrasse pas sa femme en public. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne l'embrasse jamais, ni qu'on ne l'aime pas, c'est juste qu'il y a le poids de la culture comme ça, notamment dans les petits villages en Algérie, et que. Avant d'embrasser sa femme, il va attendre de rentrer chez lui, de fermer la porte, les volets, les doubles rideaux, les triples rideaux,
éteindre la lumière. S'endorme. Il sort, il rallume tout pour voir si tout le monde dort, il éteint tout.
Et il embrasse sa femme.
Après, il embrasse. Et c'est un très grand embrasseur.
On va écouter une voix qui est aussi présente dans le film, Mohamed Hamidi. Merlot. Alors, c'est la première fois que Fatah rentre dans une église dans le film. Et c'est assez beau aussi cette séquence. Voilà, bon, il est très content de découvrir ça. Apparemment, il sort et puis devant l'église, il y a un homme qui chante. Et c'est Merlot.
Exactement. Exactement. Et moi, dans cette scène, en fait, il rentre dans une église parce qu'il est en recherche de spiritualité. Il a fait le con, il perd un peu le contact avec tout. Et il est curieux, comme je disais tout à l'heure. Il est pas, il est, voilà, il n'y a rien qui lui fait peur. Et donc, il voit cette église, il va la visiter. Et à ce moment-là, quand il ressort, il tombe sur un chanteur qui est interprété par Merlot, qui est avec nous. Qui est un chanteur moi, que j'aime beaucoup, que je suis depuis une dizaine d'années maintenant, avec qui on a fait pas mal de choses, et qui a une vraie voix, qui a une vraie poésie, qui a une vraie musicalité. Et j'étais très heureux de pouvoir l'inviter sur le film.
Alors c'est Manu Merlot, ses parents l'appellent Manuel en hommage à la révolution socialiste du Chili, c'est ça? C'est l'ancien chanteur du groupe de reggae Baobab. Il y a chez Merlot un amour de la langue française, de la dérision, il y a du cœur. Merlot, vous allez chanter ce qu'on entend dans le film, Mon flingue.
Tout à fait, je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce que je crois que j'ai été coupé dans le film. Et que je suis dans backstage d'Aurélie Charron, enchanté. Sur France Culture, bien sûr. Donc, comme vous parlez tous doucement, je trouve ça très agréable, il est 23h. Je vais essayer de faire pareil. Aujourd'hui je suis d'une humeur un peu rance. Si je me lâche et je dis vraiment ce que je pense, ça va faire des bulles, je vais me prendre un savon. Car le monde est à moitié fait de cons. Je suis un étudiant, je suis un anarchiste, je suis un musulman, je suis un communiste, je suis un utopiste, je suis un intégriste, je suis un violoniste et un véliplanchiste. Je suis un islamiste, je suis un polygame, je mange de la saucisse et je suis rastaman. Je suis un PD et alors ça te fait chier. Je suis un Suisse, un Belge, un Portugais. Je mange du halouf, je fume des spliffs. Et en plus de ça, tu sais quoi? Eh ben je suis juif. C'est comme ça et c'est pas écrit sur ma tronche. Je suis un musulman qui boit du tiponche. Moitié salafiste, moitié séfarade, moitié un peu Christ, moitié un peu crade. Je suis un anarchiste qui fait ses saintes prières. Je suis un esquimau qui mange du camembert. Je suis un mélange de tout et de son contraire. Je suis un homme petit et grand comme l'univers. Je suis un SDF, je suis un RMiste, je suis un gréviste, je suis un yougo, je suis un intermittent, un gros feignant. Je gratte la CAF à plein temps. Je suis un sauvageon, sûrement pas un pigeon. Je suis une racaille, ouais, je pue la caille. Ouais, viens me laver au car, cher, si t'as des couilles. Sinon rentre chez ta mère, Nicolas l'embrouille. Je suis un gréviste, opportuniste, orthodontiste, véliplanchiste, un kyste. Je suis... Et je suis guitariste.
qu'est-ce qui se passe quand on quitte l'autoroute, quoi. Enfin, je partais quelquefois le soir ou le matin de Paris, là, comme ça, je dégageais vite, avec cette violence que peut avoir la région parisienne. Et à un moment donné, j'avais décidé, voilà, de faire un périple, un itinéraire que j'avais pas décidé vraiment d'avance, mais voilà, je me dis, sur le moment, en même, je me disais, tiens, je vais sortir là. Donc, on vous descendait, vous sortez de l'autoroute, et puis, d'un seul coup, vous trouvez sur une nationale, une départementale. Et là, vous avancez dans un territoire qui est assez ingrat, quelquefois, avec des ronds-points, avec un aménagement, zone artisanale, zone commerciale, zone d'habitation. Puis, à un moment donné, vous avancez. D'un seul coup, derrière les rideaux, je voyais bien que les gens me regardaient. Très gentiment, quelquefois, un petit peu avec méfiance au début. Et puis, ils voyaient bien que j'étais vraiment le contraire du paparazzi. Et j'allais vite, d'abord, bon, ça, j'avais l'habitude. Et du coup, ils venaient un peu voir pourquoi je photographiais. Ça, c'est même, d'ailleurs, souvent, ils me disaient, mais vous photographiez quoi? Mais je photographie la maison. Ah bon? Mais vous trouvez qu'elle a de l'intérêt? Ben, oui, je me disais, pourquoi pas?
Mehdi et Badrou, comment on vous regardait dans les villages de France quand vous traversiez la route principale parfois qui sépare les maisons d'un côté et de l'autre?
Je pense que Raymond Depardon résume bien la situation parce que les gens sont derrière leur rideau et puis ils te regardent, ils savent pas vraiment ce que tu fais là, comment t'es arrivé là. Parce que c'est très compliqué d'aller dans un village, il faut prendre le train et puis après il faut prendre un autre train, un petit train on va dire. Et puis de ce petit train, il faut prendre un taxi, parce que nous, on ne conduit pas. Et le taxi, il te dépose au milieu du village. Et là, t'es au milieu de nulle part, finalement. Donc tout le monde te regarde, tout le monde te demande ce que tu fais là. Alors il y a certaines personnes qui sont très méfiantes, qui ont un peu peur. Il y en a d'autres qui te disent de venir, de boire un café ou quoi. Et je pense que c'est là où se crée quelque chose, finalement. Se crée la rencontre. La rencontre entre nous qui venons de Saint-Ouen, La Courneuve, région parisienne, et ces gens qui, parfois, qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui arrivait par hasard là, surtout avec un micro.
Ce qui est assez intéressant, c'est que Raymond Depardon dit que finalement, souvent, ils sont étonnés de ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire leur maison ou un vieux magasin, une enseigne. Pour eux, c'est pas du tout digne d'intérêt. Est-ce que pour vous, vous êtes intéressé à des mots, des sons, des choses qui pour eux n'étaient pas du tout. C'était pas dit que ça pouvait intéresser quelqu'un?
Déjà, nous, ce qui était très intéressant pour nous et très important, c'était de récolter des voix. Donc ces voix-là, elles portaient un phrasé qui était particulier. Elles portaient une manière de parler de la vie, de parler de politique, de parler de la terre, qui était particulière dans ces territoires-là. Et nous, on en apprenait beaucoup. Mais pour eux, c'était banal. C'était leur routine. Eux, ils passent leur temps parfois à regarder, je sais pas, Victor Newman à la télé ou à rêver en regardant James Bond. Et ils se retrouvent face à des personnes qui leur font croire que leur quotidien est émerveillant.
Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que leur quotidien, c'est aussi de traire des vaches. Et effectivement, là, ils ont pas, on leur a jamais dit que ça peut être quelque chose d'intéressant. On leur a jamais dit qu'on les a jamais enregistrés en train de faire ça. On leur a jamais demandé. Personne ne leur a jamais demandé de montrer comment ils faisaient, quels gestes au quotidien ils avaient, etc. Et ça, pour nous, c'était très drôle à voir. Et parfois, on a trait des vaches et c'est très drôle, ouais. À faire aussi.
Il y a aussi beaucoup de voix différentes dans votre film Mohamed Hamidi. Il y a justement Fadza qui prend cet accent de ce vieil Algérien. Puis il y a la voix du comte, il y a la voix des agriculteurs qu'ils rencontrent. Il y a aussi toutes ces voix dont parle Mehdi et Badrou qui traversent le film, en plus des paysages.
C'est vrai, et l'intérêt de la vache dans ce film, c'est qu'effectivement, on arrive plus avec quelque chose de rassurant. La vache a quelque chose d'universel, ça a quelque chose d'apaisé. Et nous, on l'a senti tout au long du tournage, c'est-à-dire on a tourné dans beaucoup d'endroits. Partout où on allait, à partir du moment où on sortait la vache, et on se baladait avec, tout le monde était sympa, tout le monde avait envie de nous parler, tout le monde avait envie de nous approcher. Et quelque part, c'est le meilleur passeport qu'on puisse avoir On m'a souvent demandé dans le film pourquoi il rencontre que des gens sympas. Et effectivement, on a écrit d'ailleurs des scènes, on a même tourné une scène où on rencontrait des gens pas sympas du tout, des racistes. Et finalement, on ne l'a pas mise dans le film parce qu'elle était un peu forcée. Et moi, je pense qu'effectivement, il aurait pu rencontrer des racistes ou des mecs qui le jettent comme ça de leur village. Mais franchement, quelque part, je pense qu'un type comme ça, qui est aussi inoffensif, aussi gentil, qui arrive avec une vache et qui explique aux gens qu'il va jusqu'à Paris à pied, je pense qu'il récolte surtout de la sympathie.
Nous, on a remarqué que quand on rencontrait des gens qui étaient hostiles, qui nous étaient hostiles, c'était jamais frontal, c'était toujours des petites remarques, mais en même temps ils te servent du thé, en même temps ils t'écoutent, mais en même temps les Arabes, il y en a trop, mais pourtant il y en a pas du tout dans le village. Enfin voilà, c'était toujours très c'est pas du tout binaire, en fait il y a une vraie complexité là-dedans.
Une vache, c'est un peu encombrant comme
ouais, c'est encombrant, c'est...
comme solution,
mais ça se déplace tout seul. Ça marche tout seul, donc il n'y a pas besoin. C'est moins encombrant qu'un frigo, par exemple.
C'est vrai.
Mais ça fait 700 kilos.
Dans ma famille séparée en deux pays, Omar est mon double comorien. Il est ce que j'aurais pu être. Les « comme moi », ils les appellent les « je viens », ceux qui sont venus vivre le bled dans le confort des vacances. Lui, c'est un « je reste ». Et son rêve à lui, c'est de devenir un « je pars ». Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous au quotidien quand on n'est pas là, nous, les « je viens ».
Tu sais, quand vous venez, c'est une grande joie pour nous. Quand vous venez, la joie elle augmente parce que vous nous apportez de l'argent. Les gens sont ensemble, on a des émotions à partager et plein de choses à faire. Mais quand vous partez, on vit avec rien. On vit avec une crise permanente ici. Mais quand vous venez avec votre argent, on peut enfin acheter de la viande et la partager.
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, si j'étais née là-bas, si j'avais eu la vie de Omar qui a à peu près ton âge et qui lui est aux Comores?
Quand j'y suis, c'est la question qui me taraude en permanence, franchement, parce que ça tient à rien en fin de compte. Dans mon destin, il a fallu de rien. C'était juste ma mère, parce que on vivait au Kenya à la base et on devait retourner aux Comores. Et mon père, il n'était pas trop emballé à l'idée qu'on retourne aux Comores. Il préférait qu'on aille en France pour rejoindre ma grand-mère.
Et toi, t'avais un an et demi?
Moi, j'avais un an à ce moment-là. Et ce qui nous a aidé, c'était un visa de tourisme, en fait. Comme ma grand-mère habitait déjà ici, il y a eu le prétexte d'un visa touristique pour venir en France. Et on s'y est installé jusqu'aujourd'hui, encore.
Mais dis, il a quoi de comorien en lui, Badrou?
Bah, je pense que finalement c'est une multitude de choses. Il y a plein de choses qui font qu'on est français et autres. Et je pense que Badrou, il a une façon d'avoir un rapport, par exemple, à la famille, qui est extrêmement comorien, où il faut respecter sa famille, où il faut quasiment vivre avec elle, vivre avec ses problèmes, vivre avec ses traditions. Ça vient de sa culture comorienne.
Voilà, dans l'idée de la famille à la Comorienne, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de... Mais c'est partout en Afrique, c'est comme ça. Il n'y a pas de frère du père ou de sœur de la mère. Tout le monde est ta mère et tout le monde est ta grand-mère ou ton grand-père. Voilà, les frontières, elles sont poreuses à ce niveau-là. Même si ici, administrativement et tout ça, c'est beaucoup plus réglé. Mais en fin de compte, moi, j'ai été élevé par mes oncles, mais je pouvais les appeler papa, ou mes tantes, je les appelais maman. Les amis de ma grand-mère, je les appelais coco, comme ma grand-mère. Donc, rien n'est figé à ce niveau-là.
C'est comme pour la question de l'identité, de qu'est-ce qu'il a de comorien. Moi, j'ai beaucoup aimé un livre de d'Amin Malouf, en fait, qui parle des identités. C'est les identités meurtrières, où il parle justement de cette complexité d'avoir plusieurs identités. Et finalement, moi, je me disais que c'est vrai qu'à partir du moment où on est traversé par plusieurs identités, c'est un peu comme le café au lait, en fait. C'est-à-dire qu'on a du café qui est noir, on a du lait qui est blanc. Quand on mélange, on se fait sa propre dose. Et après, on a un café au lait, mais on peut plus jamais reséparer le lait du café. Et c'est définitif. Et on a mis la couleur qu'on a voulu y mettre. Mais après, voilà, on est ce café au lait et on ne peut pas le changer, quoi.
Badrou, il y a aussi un lien au-delà des oncles, des tantes. Justement, je crois que c'est Omar aux Comores qui dit maintenant que tu travailles, tu vas pouvoir t'occuper de nous aussi, c'est-à-dire bon, nous aider, nous envoyer de l'argent. Et toi, tu ris un peu en disant « mais je ne vais pas être tranquille ». Mais ce n'est pas vraiment une blague non plus. Il y a quand même ce lien qui fait que non, tu ne vas pas être tranquille, enfin entre guillemets, que ça existe et que tu ne peux pas l'oublier.
Ouais, c'est sérieux, c'est comme ça. Ça fait partie, entre guillemets, de la mission qu'on te donne depuis la famille. Parce que... Je me rappelle, quand j'étais aux Comores, la grande sœur de ma grand-mère me racontait comment ça s'est passé pour que l'on arrive jusqu'en France. Et elle a raconté qu'elle a justement vendu de ses vaches pour payer le billet d'avion de ma mère et moi pour qu'on se retrouve en France. Donc, en quelque part, on est...
Tu donnes une vache à quelqu'un, quoi.
Voilà, on est lié par la vache.
Soupçonnez pas l'importance de la vache dans tant d'histoires.
Oui, on puis, doit tous quelque chose à une vache.
Et puis aux Comores, la vache, c'est un objet matériel très important. C'est même beaucoup,
quoi,
plus qu'une voiture. Voilà, c'est comme une voiture ici. Et c'est aussi un étendard, quoi. Pendant le grand mariage, on sacrifie... plus tu sacrifieras de vaches, plus ton grand mariage aura de la valeur.
Il y a aussi, je disais tout à l'heure... que ce film, c'est comme un dialogue avec vos parents. Mohamed Hamidi, peut-être plus le premier film, et Badrou, Le Grand Mariage, ce film-là, c'est aussi entamer une discussion. Une tentative de dialogue, ou en tout cas poser la question, est-ce que justement, moi, je serais obligée de faire ce grand mariage, ou est-ce que c'est important pour vous, ou est-ce que vous pensez même une seconde que je puisse ne pas le faire?
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est très compliquée, qui est même emmerdante pour mes parents, et je le comprends. C'est comme si on sentait que c'était la fin du grand mariage. Parce qu'aujourd'hui, on a Badrouddine, c'est-à-dire moi, qui est fils de Saïd Abdallah, et qui, depuis ses grands-pères, ses arrière-grands-pères, ont toujours fait le grand mariage. On ne se posait pas la question par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a un enfant qui remet en question ces choses-là parce qu'il ne se sent pas aussi lié que ça à ces devoirs-là. Et du coup, ça, voilà, c'est une patate chaude qui est difficile à tenir entre les mains pour mes parents.
Mais est-ce que le fait de poser la question, ça leur semble normal ?
Ça les angoisse beaucoup, mais en même temps, ils sont assez lucides sur ce qui se passe et puis voilà, on vit avec ça. On n'est pas, on se dit, on n'était pas venu en France en fin de compte pour y rester 3 mois. On y est encore parce que finalement c'est chez nous ici aussi, sans perdre de vue ce qu'ils ont laissé derrière.
Ce qui est assez beau, c'est qu'on te voit à l'image et souvent justement en dialogue avec ta mère, ton père, ou poser ces questions-là. Et j'en parlais au début de l'émission. C'est assez beau de voir ton visage et de voir que justement il n'y a pas de réponse facile parce que c'est des questions compliquées et qu'en fait c'est pas oui ou non, c'est justement beaucoup plus ouvert et ça se passe ailleurs. Et c'est assez beau de ne pas avoir tranché, il n'y a pas de réponse encore et puis c'est pas le sujet en fait.
Voilà, exactement, parce que... c'est voilà, c'est le père, c'est le père, c'est la mère, quoi. Et en plus, non seulement il n'y a pas que mon père et que ma mère, il y a toute une famille qui se sent et qui me fait comprendre que voilà, qu'elle m'attend aussi. Donc c'est un peu lourd, quoi. Un peu comme une vache à porter sur le dos.
C'est vrai que on m'attend. Ça, c'est une des phrases qui arrive au fil du film et c'est fort parce que c'est vrai que c'est pas rien. Ça se finit aussi par des il faut, il leur fallait ce mariage et il leur faudra sûrement le tien, mm-hmm. même si ça reste.
même si ça reste en suspens parce que. Mais en même temps. Je sais pas. En fait, c'est là où quelque part, voilà, un film, c'est vrai que normalement il doit y avoir l'introduction, la narration, puis la conclusion. Et c'est un film qui n'a pas de conclusion, qui reste avec plein de points de suspension. C'est des points de suspension qui font 8000 km entre Djogwe, le village de mes parents, et La Courneuve, là où l'on a beaucoup habité, là où l'on habite encore.
Et pour la génération de tes parents, l'honneur, c'est un mot qui revient souvent et très important. Et d'ailleurs, c'est presque le cœur de ce grand mariage, c'est pour l'honneur. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour toi, l'honneur? Est-ce que ça veut dire quelque chose et...
Ben, l'honneur, pour moi, c'est lié aussi à des valeurs qu'on m'a transmises, en fin de compte, à la maison. C'est cet attachement à la famille, ça fait très moraliste, mais en même temps c'est une exigence en fait par rapport à la réussite que l'on attend de toi. C'est vrai, voilà, on te fout la pression par rapport à ça, mais en même temps c'est parce qu'il ne faut pas décevoir. Trop de sacrifices de vaches, d'argent, d'énergie et de rêves ont été lâchés pour qu'on soit ici. Donc tu peux pas décevoir, quoi.
Et être l'aîné en plus, ça ajoute à...
Être l'aîné, donc voilà, il y a une voilà, on te demande un rôle exemplaire auprès des frères et sœurs. Donc c'est là aussi, ça fait partie du mon père par exemple, lui aussi il est l'aîné dans sa famille. Et ce que je vois aussi avec lui, c'est qu'il s'occupe de tous les problèmes. Il passe son temps à régler par téléphone ou en faisant des réunions familiales à la maison tous les problèmes de sa famille. C'est comme ça, c'est sa mission. Et du coup, j'ai toujours eu cette image apaisée d'un homme apaisé quand je regardais mon père. Mais plus je grandis, plus je me rends compte en fait que c'est qu'en fin de compte il se rabasse énormément de problèmes. Donc voilà, c'est chapeau, quoi.
Et ils ont vu le film, tes parents?
Moi j'étais comme avant de faire ce film, il fallait d'abord les convaincre. Donc ça a été d'abord un refus que j'ai dû essuyer de la part de mes parents. Il a fallu du temps pour leur expliquer l'importance pour moi de faire ce film. Et mes parents l'ont accepté à partir du moment où ils l'ont pris comme une trace de ce moment-là qui était important dans leur vie. Et lorsque j'avais presque terminé le montage du film, j'avais pris une version, je l'ai mis sur ordinateur, j'étais à la maison avec mon père et ma mère, et on l'a regardé. Et ma mère, elle a dit « Ah ouais, ça va, c'est bien. » Et mon père... Donc ma mère, elle est partie se coucher, mais mon père, il a rien dit. Il a dit remets-le-moi, j'ai envie de le voir une deuxième fois. Il a rien dit. Moi, j'avais peur. Je me disais que voilà, il y avait des trucs qui lui posaient problème et tout ça. Et puis à la fin, il a compris le film, mais en même temps, il a compris les problèmes que je soulevais par rapport à nos dialogues en ce moment.
Je crois que Merlot a prévu un autre morceau qui s'appelle Maru. Elle serait faite de quoi, ta rue, Badrou? Si on continue le...
Ah, ma rue...
La description de nos espaces mélangés.
Ma rue, elle serait faite de... Ben, j'espère qu'il y aura un aéroport dans ma rue, pour partir souvent.
Du coup, ça va être bruyant chez toi. Hein.
rue t'es pas belle. Tu sens le diesel, la grisaille et l'ennui. Les racailles sous la pluie font des ronds dans les flaques. Ma rue t'as pas ton bac, tu fais un peu cloaque. Ma rue t'es pas belle quand tu sors les poubelles. Oui c'est loin les Seychelles. Ma rue tu sens la pisse et puis le cannabis. Ma rue tu sens le joint et la crotte de chien, les descentes de police. Tu fais pas des manières, oui t'es un peu vulgaire. Oui c'est impressionnant mais ça n'est pas méchant quand tu t'y niques sa mère. Ma rue t'as le teint pâle sous les néons du centre commercial. Et les publicités, les pizzas surgelées, les sodas en bouteille. Et mille autres merveilles, putain c'est loin Marseille. Y'a la queue au tabac et à la pharmacie quand c'est jour de paye. Mais c'est pas vrai quand je dis que je t'aime pas. Non c'est pas vrai, non ne me crois pas. Non c'est pas vrai et tu le sais bien. Toi qui as tout, toi qui n'as rien. Ma rue c'est loin la mer, les pigeons mangent des pierres. Ma rue sent le vomi du poivreau endormi sur le trottoir d'en face. Et le gamin qui passe lui met un coup de schlasse dans son cœur meurtri recouvert de vomi. Putain c'est loin Bali. Ma rue t'as mis ta chemise quand tu passes aux assises. Tu dis que t'y es pour rien, tu as volé un pain avec un peu de sel. Ma rue passe en appel comme une criminelle. On dit que c'est la loi, ma rue est à deux doigts de la correctionnelle. Mais c'est pas vrai quand je dis que je t'aime pas. Non c'est pas vrai, non ne me crois pas. Non c'est pas vrai et tu le sais bien. Toi qui as tout, toi qui n'as rien. Avec tous tes problèmes, tes jolis poèmes. Oh ma rue, tu me retiens. Non c'est pas vrai quand je dis que je t'aime pas. Oh ma rue. Ces derniers temps tu changes, c'est pas que ça me dérange. Tu prends tes airs de pute qui se prend pour une reine. Ces derniers temps tu traînes avec des types en smart, des mecs qui sentent le fric, qu'ont pété la tirelire, qui voudraient investir en achetant des apparts. Fini le diesel, sans vider les poubelles. Nettoyer le vomi, les racailles sous la pluie, les ont mis en cabane. Ma rue a changé de style, j'ai dû quitter la ville. Que voulez-vous que j'y fasse, le monde est dégueulasse. Ma rue n'est qu'une impasse. Mais c'est pas vrai quand je dis que je t'aime pas. Non c'est pas vrai, non ne me crois pas. C'est pas vrai et tu le sais bien. Toi qui as tout, toi qui n'as rien. Et avec tous tes problèmes, tes jolis poèmes. Oh ma rue, tu me rejoins. Non c'est pas vrai quand je dis que je t'aime pas. Oh ma rue.
Comment on dit bonne nuit en comorien, Badrou?
Massihou mouema.
Pardon?
Massihou mouema.
Massihou mouema. On sera parti du centre du pays, d'une naissance pour se décentrer, multiplier les endroits, traverser un pays à pied et retrouver la noble naïveté, celle qui permet de s'étonner et d'accueillir tout ce que l'on ne connaît pas encore, ce qui nous est étranger. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pinault, merci à Vincent Abouchard pour la réalisation, à la technique Pierre Mine et Julie Garraud. Le film de Mohamed Hamidi, La Vache, sera au cinéma le 17 février. Le film de Badruddin Saïd Abdallah, Le Grand Mariage, sera diffusé dimanche prochain, 14 février, à 14h50 sur France O et disponible ensuite en replay. Merlot sera au festival Chant à Part, le 26 février à Aubigny, le 27 à Saint-Nazaire. Et puis le 4 mars, toutes les dates sont sur notre site internet. On peut aussi écouter en disque son conte musical Marcel et le Père Noël. Il est déjà demain, c'est minuit, vous êtes né quelque part, mais le centre est peut-être ailleurs et le cœur n'a pas besoin d'endroit. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure des nuits.